Cascodeur Podcast, épisode 261. Interview d'Octolib avec David Gageot. Enregistré le 30 juin 2021.
Et bienvenue dans ce nouvel épisode des Cascodeurs, le numéro, a priori, si je ne dis pas de bêtises, 259.
Plus ou moins un.
Plus ou moins un. Et Antonio et moi ne sommes pas tout seuls, puisque nous allons interviewer quelqu'un qui travaille pour Doctolib. Nous avons avec nous aujourd'hui...
Le grand, le seul, l'unique...
David Gageot.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue dans notre podcast. Bon, mais comme on va parler quand même de Doctolib, de vaccination, d'abord j'aimerais quand même savoir, parce que sinon il faut que je mette mon masque ou pas, est-ce que tu es vacciné?
Doublement.
Doublement, bon bah c'est parfait. Bon,
allez, oh, ça sent deuxième le piston, dose aussi. Ça sent le piston.
Ouais, ouais, non, mais il doit avoir ses entrées là dans le système,
mais
et
oui,
puis
mais
il prend un rendez-vous où il veut dans n'importe quel centre.
Mais oui, à coup sûr, je parie qu'il a même la 5G et il nous le dit même pas.
Ça ouais. Commence bien. Honnêtement, j'ai la 6G, ça je devais pas le dire. et les pistons, malheureusement, non.
Mais et le pire à propos de la 5G, c'est que quand j'ai fait, jusqu'à présent, chez moi où j'habite, je n'avais que la 4G. Et... Après la première dose, je sais plus, je suis allé en course, je sais plus trop où, j'ai vu la 5G la première fois sur mon téléphone. Ah, mais tiens, dans la région, il y a la 5G. Et après la deuxième dose, chez moi, j'ai vu la 5G sur mon téléphone, alors qu'il n'y avait pas d'antenne 5G à côté de chez moi. Et je me suis dit, oh merde, bah, putain, les complotistes, ils ont raison ou quoi?
CQFD.
C'est pas possible.
Vivement la troisième dose.
Ah là, ouais. Vive le variant Delta. Bon. Alors, David, est-ce qu'on te présente?
Qui es-tu?
Ta vie, ton œuvre, d'où tu viens, comment t'es arrivé à Doctolib, quoi?
Aïe, aïe, aïe. Écoute, je crois que la dernière fois qu'on s'est parlé sur les cascodeurs, on était chez Google tous les deux.
Ouais.
Tu es toujours, moi, j'y suis plus. Je suis parti pour Doctolib en octobre.
Octobre 2020.
2020, voilà. Donc, ça fait pas si longtemps que ça, je suis chez
Doctolib. Ça fait pas si longtemps que ça, ouais.
Mais t'arrives sur la période chaude, quoi, quand même.
J'arrive sur une période incroyable. C'est-à-dire que mois d'octobre, novembre, j'ai démarré dans la boîte, c'était super. Il y a vraiment un onboarding qui est incroyable, mais j'avais pas encore énormément de boulot. Et puis est arrivé décembre, où là, on a commencé à lancer la vaccination en Allemagne, et puis janvier en France. Et ça a été beaucoup plus marrant.
Ça fait 10 heures sup, parce que là, à mon avis, ça a dû être chaud.
On en a fait quelques-unes, ouais. On était piloté par les annonces du gouvernement, les passages aux 20 heures du gouvernement ou de notre CEO. On a fait des petits moments de stress comme ça, assez intéressants.
C'est vrai que ça arrive souvent hein, quand on voit, par exemple, aux infos, tu as un site d'une boîte qui est mentionné. Et en fait, d'un seul coup, t'as des centaines de milliers de personnes qui vont sur le site. Et très souvent, tu vois que le site est down, il est tombé parce qu'il y a eu trop de monde. Mais c'est pas le cas de Doctolib. On va parler de son architecture tout à l'heure, etc.
Ouais.
Comment vous arrivez justement à ce qu'elle est.
Et, alors, David, justement, plutôt un parcours dev. Doctolib, là, justement, tu as été recruté en tant que dev, en tant qu'archi, en tant qu'ops, tu fais quoi?
J'ai été recruté avec un poste un peu pompeux de chief architect.
Waouh!
T'as vu ça? Je crois qu'au début, quand ils m'ont contacté, ils n'avaient même pas trouvé encore le titre. L'idée, c'était plutôt d'avoir quelqu'un de très tech, avec un background vraiment dev. Mais qui avait vu aussi des sites, soit des sites à fort trafic, soit des applications utilisées par beaucoup de monde. Typiquement, être passé par Docker et avoir travaillé sur Docker for Windows et Docker for Mac qui était utilisé par des millions de personnes. Être passé par Google où j'ai vu effectivement ce que c'est qu'une boîte avec un scale assez incroyable, ça les intéressait. Mais avec quelqu'un de très tech et surtout, on s'est vraiment trouvé sur l'équilibre, enfin sur les la vision de la tech, quoi. Est-ce qu'on est là pour faire de la tech pour de la tech? Est-ce qu'on fait de la tech pour le produit? Bah, c'est plutôt ça qui les intéressait. Et avec une vision assez pragmatique que moi, j'ai toujours portée. Hein. Et on s'est vraiment trouvé sur le coup. Et en toute transparence, et je leur ai déjà dit, quand ils m'ont approché, moi, j'étais pas en recherche de poste. Hein, j'étais chez Google. C'était un peu compliqué. C'était confinement, des collègues à 9 heures de décalage aux États-Unis. Fallait jongler.
Tu veux dire que nous, on était décalés, nous?
Ben non, vous étiez plus là. Mes collègues français étaient plus à côté. Je pouvais plus me plaindre auprès d'eux. Hein. Et mes collègues de boulot journalier, eux, étaient aux US. Hein. Et donc, c'était une période assez compliquée, limite quand même dépressive. Mais je m'étais dit, en septembre, je vais me rebooter, tout va bien se passer. Bon, ça ne se serait pas vraiment passé comme ça, je pense. Mais quand ils m'ont contacté, Doctolib, pour quelque chose très tech, avec pas trop de management, hein, ça m'a vraiment intéressé. Ouais.
Et alors justement, tu parles du confinement, Google isolé à la maison. Doctolib, alors t'arrives au mois d'octobre et ça se passe comment? On est tous en bordé. Tu vas quand même au siège ou non? Tu restes à la maison parce que c'est le confinement, parce que le masque.
Alors quand j'ai rejoint Doctolib, je pense qu'on était en mode, on avait un jour par semaine qui était autorisé au boulot, quelque chose comme ça. Donc en fait, là, la plupart des équipes avaient un jour commun à chaque équipe. Donc les gens venaient au boulot un jour par semaine, le lundi ou le mardi, selon l'équipe. Et puis moi, bah, la première journée d'onboarding, donc je suis arrivé en même temps que 60 autres personnes, un lundi. Et là, on a eu la première journée sur site. Et ensuite, on a eu tout le reste de la semaine en onboarding à distance. Et d'autres qui ont rejoint depuis, eux, ont fait l'onboarding totalement à distance. Ils n'ont même pas eu la première journée sur site.
Ah oui.
Et en attendant, ça s'est super, super bien passé. On a un processus d'onboarding qui est assez magique. On communique pas mal dessus. On a blogué. La plupart des personnes que j'ai réussi à embaucher depuis bah, ont confirmé que c'était un onboarding vraiment qualitatif. Et le fait que ce soit à distance, finalement, ça se passe pas mal. On organise des pauses café pour que les gens fassent connaissance. On organise pas mal de choses pour que le côté remote s'efface. Et puis la boîte, bah, de toute façon, elle est à 90% remote depuis, depuis plus d'un an, quoi. Donc, moi, ça s'est très bien passé. Et depuis, au quotidien, bah, je vais au travail selon les périodes, soit 0 jour par semaine, soit 1 jour par semaine. Je pense que voilà, dès qu'on pourra retourner un petit peu plus, j'irai un petit peu plus. Mais c'est vrai que je me suis fait au travail remote. J'y croyais pas.
Finalement.
Ouais, non, j'y croyais pas. Mais là, tu vois, j'ai la totalité de mes conversations avec des gens qui sont dans le même time zone.
On a des
choses très concrètes sur lesquelles on travaille. J'ai un poste qui est un peu plus réunion qu'avant. Hein. Avant, j'étais plus sur moi et mon clavier. Maintenant, je suis plus sur de la réunion. Donc, c'est assez confortable de faire ça chez soi.
D'accord. Et c'est Doctolib aujourd'hui, c'est donc vous êtes en France, en Allemagne, c'est combien de salariés, quelle proportion de tech par rapport, parce qu'il y a aussi pas mal de gens au téléphone pour démarcher les médecins, etc.
Les médecins et les hôpitaux. Ouais.
Je suis nul, j'ai des ordres de grandeur dans la tête. On doit être à peu près 1002 et à peu près 250. 300 à la tech, 250-300. Ouais. Je me trompe un peu parce que je connais pas bien les chiffres. Mais
oui, on a vu de nez.
Tu vois, il y a la tech, mais il y a aussi de très grosses équipes vraiment produits sur les product managers, directeurs de la stratégie, du marketing, beaucoup d'équipes sur le terrain, tech services qui accompagnent nos clients qui sont les docteurs sur les installations, sur le quotidien. Qu'on a, beaucoup
d'installations. Alors, installation, c'est-à-dire, parce que nous, on connaît Doctolib, l'appli ou le site web où je clique et puis je prends le rendez-vous. Ouais. Mais est-ce que lorsque vous arrivez dans un hôpital, est-ce que justement vous installez des choses ou vous hébergez absolument tout? Ça se passe comment?
On héberge quasiment tout. C'est majoritairement un produit web. Même l'appli mobile, en fait, c'est une appli web. À l'intérieur. Et effectivement, il y a l'application grand public où nous, on prend des rendez-vous, mais le médecin, lui, il a quelque chose de plus riche en face. Et en plus, il y a d'autres produits que celui-là. Il y a par exemple le produit sur la téléconsultation, c'est un produit à part qui, avant le confinement, nécessitait un setup. Donc, on allait voir on avait des gens sur le terrain qui allaient voir les médecins un par un, qui leur installaient, qui vérifiaient que la connexion était suffisante, la caméra, tout ça.
D'accord.
Quand le confinement a été lancé, on a des gens qui ont bossé comme des oufs pendant, je ne sais plus, 2 jours ou 4 jours pour transformer tout le process d'onboarding des médecins sur la téléconsultation. On a rendu le produit gratuit et on est passé de quelques milliers de docteurs qui l'utilisaient à plusieurs dizaines de milliers en 15 jours. Quoi.
Wow. D'accord.
Et voilà.
C'est du scaling de clients aussi.
Ouais, c'est ça. Et puis, on a un autre produit qui a été lancé cette année qui est, qu'on appelle Doctolib Docteur, où là, c'est vraiment ce qu'on appelle un PMS. Donc, c'est vraiment pour gérer une base patientèle avec, là, ce coup-ci, des données encore plus sensibles, des données médicales, etc. Donc, ça, c'est un nouveau produit qu'on a lancé.
Et toujours hébergé en mode SaaS chez vous.
Ouais. Après, il y a une application Electron aussi pour les praticiens, parce que souvent, ils ont des progiciels déjà sur leur poste ou sur leur réseau. Ils ont éventuellement d'autres systèmes auxquels il faut se connecter en local. Mais 99%, c'est du SaaS.
Et alors, France, Allemagne, vous avez d'autres pays, Europe essentiellement, ailleurs ?
France, Allemagne... Italie depuis le début d'année, ouais. Donc tout nouveau en Italie, tu vas sur doctolib.it, voilà. C'est, on fait à peu près la même chose. Bien sûr, chaque pays a ses spécificités, ça rend aussi le boulot intéressant, quoi, d'ouvrir un nouveau pays.
Effectivement. Et là, on avait quand même évoqué, c'est une question qu'on avait pour un petit peu plus tard, mais donc les données patients, comment ça se passe ? Est-ce que tout est chiffré, etc., end-to-end encryption pour les documents donc ça veut dire Doctolib n'a pas accès, ne voit pas ces documents-là, ces informations, j'imagine ?
Ouais. En fait, ça dépend vraiment des données. Toutes les données médicales, hein. Elles sont chiffrées, ce qu'on appelle de bout en bout ou end-to-end.
Donc
vraiment, tu as une ordonnance, elle est générée sur le poste du médecin, elle est uploadée sur les services et avant d'être uploadée, elle est chiffrée de manière à ce que seul le praticien et le patient puissent lire ce document. Donc nous, on stocke des PDF dans S3, mais les PDF, il n'y a ni nous, ni Amazon, ni aucun autre médecin, ni aucun autre patient qui peut les déchiffrer.
D'accord.
Donc, nous, on stocke du blob. sur les données structurées, par exemple, justement, dans le nouveau produit, on a les antécédents médicaux, on a les choses comme ça. Pareil, tout ça, c'est chiffré sur le poste du praticien, de manière à ce que personne chez Doctolib ne puisse avoir accès. On passe par un service externe qui s'appelle Tanker.
Ah, d'accord.
C'est eux qui font de chiffrement bout en bout. Ils le font, par exemple, pour Alan. Vous connaissez l'application Alan qui fait les mutuelles. C'est une application, c'est mutuelle et c'est pour les indépendants, par exemple. Et Alan aussi utilise Tanker, c'est une boîte française, Tanker, qui gère pour nous toute cette clé. Les clés ne sont jamais stockées chez nous. Et selon le cas métier, selon le cas fonctionnel, on a soit des clés pour un praticien ou pour un groupe de praticiens ou pour... aussi éventuellement sur certaines sous-fonctionnalités, eh bien le praticien donne accès à Doctolib à certaines données pour des, par exemple pour entraîner des modèles de machine learning ou des choses comme ça, mais c'est toujours toujours un chiffrement maximal autant que possible et quand c'est pas le cas c'est avec des opt-in des personnes concernées.
D'accord. Et alors, et la vidéo, parce que tu parlais aussi de vidéoconf que j'ai fait avec la pédiatre de mes gamins là, hyper pratique parce qu'il était 20h, tu vois, donc c'est plutôt sympa. Et alors, la vidéo, elle est encryptée aussi, elle est hostée chez vous, ouais, ça se passe comment ?
Je sais pas comment ça se passe la vidéo, je connais pas les détails. On utilise un prestataire qui s'appelle Talkbox, donc on respecte toutes les lois actuelles pour la vidéo à caractère médical, mais je sais que c'est en train de changer. Donc, honnêtement, nous, dès qu'il y a des législations qui nous imposent un choix de tel ou tel provider, ben, on va vers les providers qui sont qu'on peut utiliser de façon légale. Typiquement, on utilise AWS pour stocker ces blobs chiffrés. AWS peut pas les lire, mais aussi ils sont certifiés pour stocker des données des données médicales. Donc, on utilise
double sécurité en quelque sorte.
Voilà, il y a aussi des chiffrements à Trust en dehors du chiffrement end-to-end. Et puis on est sur des data centers de Francfort et de Paris
Ça reste en Europe.
Pour nos trois pays en Europe. Hein.
Mais alors justement, tu parles de, vous passez par une boîte made in France pour le cryptage, etc. AWS, pourquoi alors? Pourquoi vous n'êtes pas dit, tiens, on va sur OVH ou on va chez un player français?
Ouais. Bah, déjà parce que on le fait dans les règles de l'art, de la légalité, déjà, donc c'est autorisé d'utiliser AWS. Ça a été même remis en question il y a quelques mois là, et ça a été tranché qu'on faisait ce qu'il fallait. Et ensuite, en termes de scalabilité de service, on peut penser que Doctolib, c'est un petit service, mais on est un des plus gros sites français maintenant. Il faut voir quand même qu'on a les deux tiers des Français qui utilisent Doctolib, sans doute plus maintenant. Donc c'est
Ah
un
là là.
très gros site à très gros trafic. Donc Amazon, bah, sans vouloir vexer Guillaume, mais même sur Google, on n'a pas tout à fait la même scalabilité pour les services qu'on utilise. Je ne parle pas en
d'accord.
général, mais un hyperscaler par rapport à un autre cloud, c'est pas la même chose, c'est clair.
En fait, moi, je pensais que tu allais me dire, on est sur Amazon parce qu'ils sont certifiés, estampillés, voilà, ils peuvent hoster des données sensibles ou des choses comme ça, et d'autres non. Je pensais que le choix d'Amazon n'était pas que technique, pas que lié à la scalabilité, mais plus, on est
Voilà.
sûr que les données sensibles
Ça,
ne fuiteront pas.
c'était
C'est un
obligatoire.
prérequis,
D'ailleurs,
ça. C'est un prérequis.
on devait prendre un cloud provider qui peut stocker des données médicales. Ça, c'était obligatoire. On ne pouvait pas en prendre un autre.
Mais
Ça veut
alors
dire
justement, est-ce
que.
que OVH peut le faire? Est-ce que Google peut le faire? Est-ce qu'ils sont estampillés? Peut-être que c'est une norme qui porte un nom que je ne connais pas, mais.
Ouais, je me rappelle jamais du nom de la norme, mais
Y a
je
plusieurs
sais pas.
noms.
Je crois que Google l'est
Ouais,
maintenant.
ouais.
OVH, sur certains services, doit l'être aussi.
D'accord.
Par exemple, des boîtes comme Scaleway, c'est en cours. Azure, ils le sont. Mais effectivement, donc ça, c'était un must-have. Ensuite, en termes de scalabilité, on voulait quelque chose qui nous assure une scalabilité au moment où on a choisi. C'était à peu près il y a 2 ans. Et puis, dans le futur aussi. Hein. Et là, on en parlera peut-être tout à l'heure, pendant la campagne de vaccination, typiquement, on a amené les briques qu'on utilise chez Amazon au bout du bout. Donc,
Ah ouais.
c'est pas facile de trouver ça ailleurs.
Et puis machine learning aussi, t'en parlais. Donc machine learning. Alors pourquoi, qu'est-ce que vous learnez et vous faites ça où? Alors vous faites ça avec Amazon ou?
Alors, machine learning, c'est pas spécifique à tel ou tel cas, ça pourrait être fait un peu partout. On entraîne des modèles, par exemple, pour aider les praticiens à catégoriser leurs notes. Donc, quand ils importent les notes de leur PMS actuel, c'est des notes brutes. En gros, c'est du fichier texte qui correspond, qui est structuré un peu comme le médecin voulait le structurer lui quand il utilisait son ancien PMS. Et nous, on va les aider à catégoriser ça de façon beaucoup plus systématique, beaucoup plus claire, beaucoup plus facile, lisible. Et donc, ces notes vont pouvoir être envoyées à ce système de machine learning pour aider à catégoriser beaucoup plus vite. Donc typiquement, quand tu es en train de taper CAN, on va te dire, ah, bah, tu peux peut-être taper cancer, hein, quand tu vas taper ci ou ça. Et donc là-dessus, tu vois, il y a un énorme aussi effort de sécurité. Cette fonctionnalité, moi j'ai passé les 2 premiers mois chez Doctolib. Cette fonctionnalité, l'équipe qui a bossé dessus, ils ont passé 99% du temps sur de la sécu pour être sûr
Ah oui.
que toute la sécu était bien faite, qu'à chaque fois c'était du opt-in, et qu'une fois que les données sont catégorisées, il n'y a plus aucune trace chez nous et qu'elles sont scellées pour le praticien seulement. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui sont pas faciles. La fonctionnalité de search derrière, de match, elle est très simple, quoi.
D'accord, donc c'est pas du machine learning. Je sais que tu as un cancer. Je sais que tu habites à côté de tel hôpital et cet hôpital te fait un cancer free, buy one free, get one free, quoi.
Non,
C'est pas
c'est
ça
pas
du tout.
ça. Non, c'est pas ça. C'est plutôt de l'aide de diagnostic ou des choses ou de l'aide à la complétion de texte ou pour d'autres solutions. Là, c'est pas du machine learning, c'est plus des API comme l'API de Vidal qui va t'aider à vérifier les interactions entre les médicaments. Donc pour
Ah.
ça, on utilise Vidal, des choses comme ça.
Et donc niveau techno, qu'est-ce qu'il y a sous le capot de produits comme ça chez Doctolib, de techno, de langage, de
Oh, si tu
stockage,
sais, du
etc.
C++ et du Java et des
Non,
trucs
je
de
crois
ouf.
pas.
Ouais, que du techno pour vous. Alors, c'est du Ruby on Rails.
Ah,
Oh! Du
ah, quand
React, ça
même.
va plaire à Antonio maintenant qu'il fait principalement du
Ouh.
JS. Je veux dire, je pense que React, ça va lui plaire. Et du Postgres derrière pour la majorité du stockage. On va dire la majorité des données structurées sont dans Postgres et le reste dans S3. Après, il y a des petites. Mais ouais, c'est du Ruby on Rails. Depuis le premier jour, hein, pour la productivité que ça donne. Et on aime bien ça ouais, chez Doctolib.
Après,
Moi,
dans
j'en
les
avais.
cofondateurs, les deux techos étaient quand même très fans de Ruby on Rails hein, depuis très
Bah
très
oui, c'est
longtemps.
clair. Jesse et Yvan, ils
Jesse et
étaient
Yvan,
fans. Tu les as connus à l'époque
à l'époque
et
d'Octo.
ils étaient fans pour la productivité que ça apporte. Et
Ouais.
toute leur carrière, ils ont été confrontés à des grands architectes qui leur ont dit, non, papa, bah, pourquoi tu n'utilises pas un vrai langage, un vrai framework, un vrai machin? Et puis eux, à côté de ça, bah, ils avaient un site qui avait de plus en plus d'utilisateurs. Et à chaque fois qu'il y avait un mur, ils faisaient tomber le
Trouver une
mur
solution,
juste
ouais.
avec du Ruby. Hein, et ça marche encore très bien. Donc voilà. Le problème, il
Finalement,
n'est
du
pas
Ruby
là.
on Rails, ça se cale, quoi.
Ouais, GitHub, ça tourne sur du Ruby on Rails. Shopify,
Ah.
ça tourne sur du Ruby on Rails.
C'est des bons exemples, là, quand même, hein, mine de rien. Comme quoi, c'est pas juste la vitesse intrinsèque pure d'un langage qui va faire que un site web avec beaucoup de succès n'arrive pas à
Ouais,
scaler,
ouais.
quoi.
Bah, c'est clair. Nous, ce qu'on veut, c'est scaler l'effort des développeurs. On veut qu'ils développent des fonctionnalités rapidement. Et s'il faut mettre le double de machines pour que ça supporte la même charge, c'est pas vraiment un problème.
Et il y a combien de. Enfin, comme ça, je ne te demande pas un chiffre précis, mais c'est pareil, combien il y a de machines ou de serveurs, de VM qui font tourner tout ça?
Bah, je... On a plusieurs. En fait, on a un Kubernetes qui fait tourner notre
Ouais.
Rails. Donc, notre Rails, pendant la vaccination, on était à peu près à 800 pods qui faisaient que du Rails. Et puis,
D'accord.
800 pods pour le trafic web. Donc,
Ouais.
je sais pas combien de centaines de machines en dessous. Donc, c'est costaud quand même. Hein. Et ça, c'est pas une limite. Ça, tu peux faire tourner ça sur à peu près tous les cloud providers. Hein. Après,
D'accord.
derrière, on a une seule base de données. Un gros Postgres.
Ben, j'allais te
Donc,
demander le goulet d'étranglement, est-ce que c'est pas justement ta base Postgres,
ouais,
quoi?
c'est
D'accord.
elle, c'est le boulet d'étranglement. Pour info, chez Doctolib, on fait des tests de perf tous les mois. Donc, on essaie de se projeter, se dire, OK, si je mets le double de trafic, est-ce que mon infra, elle tient? Et
Ouais.
en gros, on sait que tous les 6 mois, on fait x2.
Wow.
Pendant la vaccination, au mois de mai, en 3 jours, non, en 2 jours, on a fait x3. Donc là, la base de données, elle a commencé à atteindre des limites qu'on imaginait
Oups.
atteindre plus loin dans le temps. Et en fait, on est dans cet équilibre. On est cet équilibre un peu marrant chez Docto que j'adore, moi. C'est, on se dit, OK, mais on n'a pas besoin de mettre 50 bases de données derrière. On n'a pas besoin de faire du sharding tant qu'on n'en a pas vraiment besoin. Si ça passe, ça passe. Oh non, on est parti sur les claques.
Si ça passe, ça passe.
Si ça passe, et donc on va optimiser les requêtes, on va optimiser l'appli, on va optimiser l'architecture. Et comme ça, au niveau ops, ils auront une base à gérer et ce sera mieux. Alors notre base, c'est quand même une base chez Amazon, c'est Aurora, donc c'est du Postgres managé. Il y a un writer et jusqu'à 14 readers, donc
D'accord.
c'est pas une grosse machine, c'est 15 grosses machines.
D'accord.
Et alors, tu parles de sharding, etc. Ta base de données, c'est la même pour la France, l'Allemagne et l'Italie, ou
Oui,
non, c'est trois bases. Ah oui, d'accord.
on a une architecture, on a ce qu'on appelle chez nous la boring architecture, donc l'architecture.
C'est comme les tunnels d'Elon
Ça, c'est
Musk, là.
comme les
La Boring Company avec ses
boring
tunnels, là, c'est la
company. C'est exactement
boring.
ça. On essaie d'avoir une architecture simple, simple,
Tu
simple, simple,
creuses.
simple. Et quand on peut faire encore plus simple, on va faire encore plus simple. Parce que bah, nos ops, on a une toute petite équipe d'ops. On est sur des produits managés. Les développeurs, ils peuvent aller débugger tout ça aussi, et il faut que ce soit simple. On a un seul jeu d'outils pour débugger tout ça, pour l'observabilité, la traçabilité, le monitoring. On est sur Neuralink, bah, ça nous facilite la vie d'avoir une seule base. Et on sait que le jour où on va passer à 2, on passera ensuite forcément à 12, et on a envie d'éviter ça, quoi.
Et alors justement, votre méthodologie de dev, alors ça se passe comment? Tu développes en Ruby, tu testes à la mano, il y a des gens qui testent, vous avez un gros pipeline qui va tout tester, qui met tout en prod, vous faites des mises en prod 4 fois par an et pas plus.
Ah bah là, ça doit être plus que ça là. Parce
On
qu'avec
fait
tous
des
les
mises
changements
en
qu'il y a eu.
Ouais, c'est clair. Non, non, il y a beaucoup de configs. Pendant la vaccination, c'était oui, sur le Slack interne, c'est je vous annonce que maintenant les vaccins vont passer en un délai de 21 jours à 48 jours. Le lendemain, de 28 jours à 49, de 32 jours à 50.
Oups.
Selon la région. Bon, ok, super. Non, non, mais après, pour le déploiement, on en fait 3 par jour.
Parce que moi, je croyais que le cahier des charges, il était fixe, non?
Oh là là, ouais, t'imagines.
Et là, il évolue en fonction des annonces du gouvernement, quoi.
Ah, t'imagines pas, et ton cahier des charges, il évolue, et d'un côté, le gouvernement français, et puis d'un côté, on a remporté un appel d'offres en Allemagne pour la région de Berlin. Donc, on gérait toute la vaccination à Berlin. Donc là, c'est les sénateurs de la région qui, pareil, t'imposent le cahier des charges, parfois qui change du jour au lendemain.
Bam!
Et donc, on release pour ça 3 fois par jour. Enfin, on déploie en prod tout le produit 3 fois par jour.
Est-ce que c'est à des heures particulières? Genre, il faut savoir qu'il ne faut pas aller sur Doctolib à telle heure parce qu'il y a le déploiement.
En fait, ça ne sert à rien parce que le déploiement, il se fait progressivement. Donc,
D'accord.
il n'y a aucun impact sur toi.
Ça se voit pas.
Ça ne se voit pas, mais effectivement, c'est à heure plutôt fixe. Et donc, les développeurs, mais, ils travaillent sur leurs features. Ils écrivent beaucoup de tests. On a une CI qui fait tourner 30 000 tests, beaucoup de tests end-to-end. On a une CI assez costaud, hein, qui tourne elle aussi sur un cluster de plus de 700 nœuds
Ah ouais.
fédérés dans Kubernetes. Et donc, on n'a aucun test manuel. Il n'y a pas de cahier de test. On fait de la recette manuelle sur staging. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu merges ta PR, elle est déployée automatiquement sur staging. Tu peux aller vérifier que ça marche bien.
D'accord.
On pousse tous les développeurs à faire des fonctionnalités qui sont derrière des feature flags. Donc, on peut activer ce feature flag en prod, soit de façon progressive, soit de façon totale. Et puis, il y a très peu d'interactions entre les équipes sur les fonctionnalités, puisqu'on n'a pas de microservice, on a un gros monolithe qui est déployé tout d'un coup, donc il n'y a pas de je t'attends, et que sur ta roadmap, peut-être que dans un mois, tu auras fait ça et que nous, on pourra le faire. Non, non, il n'y a pas ça. Donc on est assez véloce, hein. Ce qui nous a bien
Finalement, les
servi.
monolithes, c'est bien alors.
Les monolithes, c'est bien, ouais. Ça a pas mal d'inconvénients et ça a énormément d'avantages.
À la limite, hein, je veux dire, tant que t'as pas tapé les limites de ton monolithe, pourquoi faire des microservices, hein?
Bah, c'est ça. Nous, on ne veut pas aller débugger des appels entre microservices. On a un modèle comme ça qui est très simple, très stable, facile à monitorer. En revanche, à 150-200 développeurs, ça commence à être plus compliqué à maintenir.
Ouais.
Donc là, dans mon équipe, on essaye d'amener toute la tech à identifier de façon plus finement des composants dans le monolithe, mais ça reste dans le même code base, qui sont déployés de la même façon. C'est
D'accord.
juste qu'on va avoir
Un peu des
des
packages,
modules,
des
ouais, ce qu'on appelle
modules.
un monolithe modulaire.
D'accord. Effectivement.
Et tout ça veut dire que Ruby on Rails, c'est top. Moi, j'adore. J'en avais fait dans le passé, pas énormément, mais j'en avais fait un peu. Hein.
Et
Et
ça
j'ai
t'a pas fait
toujours.
bizarre du coup de enfin javaïste converti au Go qui se met à faire du Ruby on Rails, ça te va?
Ouais, en fait, les vrais problèmes, ils sont pas là. Donc,
Ouais.
je m'en fiche un petit peu. Même si j'aime Java pour certaines choses, je préfère
Ouais.
Go sur d'autres. Et Ruby, j'ai toujours adoré le langage. Mais c'est vrai que, en Go, typiquement, on avait du mal à écrire deux choses, enfin, de deux façons différentes la même chose. En Ruby, c'est pas du tout le cas. Tu peux y mettre ta touche à toi et écrire de 25 façons différentes la même chose. C'est un petit peu frustrant parfois quand tu vois du code, tu te dis mais qu'est-ce qui a été fait là? Sinon, moi, c'est un langage que j'adore. Hein. Ça nous donne de la productivité. Donc c'est cool.
C'est élégant.
On parle de la vaccination alors? C'était quand même un moment un peu unique chez les Doctolib, non?
C'était un moment honnêtement génial. C'était un moment génial parce qu'on avait. Non mais on avait la certitude qu'on faisait un truc important. Il faut rappeler que nous, nos clients, notre modèle économique, c'est de vendre des licences à des praticiens pour optimiser leur cabinet, pour qu'ils aient des rendez-vous mieux planifier, qu'ils aient moins de no-show, qu'ils aient moins de trous, qu'ils aient un outil de suivi, quelque chose de moderne, qui tranche avec les trucs un peu archaïques qu'ils avaient avant, mais c'est eux qui nous payent des licences mensuelles pour utiliser ça. Les patients, eux, nous rapportent aucun argent, et pendant la vaccination, nous en ont coûté pas mal, parce que c'est un... On va dire que c'était beaucoup plus exigeant sur la plateforme que le reste des rendez-vous. Globalement, j'avais un petit chiffre. Pendant le pic de la vaccination, en gros, le nombre de requêtes qu'on faisait pour prendre des rendez-vous, c'était 2% des requêtes de la plateforme.
Ah, oui.
Tout le reste, c'était des rendez-vous normaux, des gens qui prennent rendez-vous chez leur médecin. Par contre, ce 2%-là, il était très, très violent sur la plateforme. Hein. Ça a été un challenge pour nous. On a mis beaucoup de machines derrière, beaucoup d'argent. Mais la satisfaction, c'est quand on voyait le nombre de rendez-vous pris qui augmentait. Et qui, surtout, un des gros challenges pour nous, ça a été de maximiser la vitesse à laquelle vous pouvez prendre un rendez-vous. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Doctolib au tout début pour prendre un rendez-vous. C'est je clique, hein. J'attends, je clique, j'attends, je choisis mon créneau, je clique, on me dit « Ah, il est plus disponible ». Alors, je recommence. Et il y en a comme ça qui ont essayé 10 fois, 100 fois. Nous, on le voyait sur le monitoring. On avait des mêmes user ID qui essayaient 10 fois, 100 fois. Et c'était un enfer pour eux, c'était un enfer pour nous. C'est-à-dire que nous, on passait 100 fois plus de ressources pour qu'eux, ils prennent un rendez-vous. Nous, notre but, hein, c'est qu'un patient, il vienne, il clique, il a pris son rendez-vous, il est content, il va se faire vacciner, et on ne le revoit plus avant la prochaine vaccination. Et c'était vraiment pas le cas. On a tapé plein de murs au niveau logiciel, au niveau architecture, hein, qu'on a essayé de faire tomber un par un. Donc ça, c'était génial.
Attends, tu me dis que c'est les médecins qui vous payent, et les hôpitaux, donc. Ouais. Moi, je paye rien, je clique comme un malade, en plus, je vous coûte de l'argent. Et les vaccinodromes, alors, tu vois, moi, lorsque je vais me faire vacciner à la mairie du 14e, j'ai pris mon rendez-vous sur Doctolib, il y a plein de gens qui ont fait pareil, la mairie, elle vous paye, le gouvernement, il vous paye, qu'est-ce qui vous paye tout ça?
C'est une bonne question, honnêtement, en toute sincérité, je ne sais pas, je me suis même jamais posé la question. Pour moi, il y avait peut-être une licence spéciale, mais je suis même pas sûr, en fait, pour la vaccination. Honnêtement, on a gagné en Allemagne, on a gagné un appel d'offres. Est-ce qu'il y a de l'argent en face? Je ne sais pas. Et en France, j'en ai aucune idée. Pour moi, même s'il y a un peu d'argent, de toute façon, vu l'effort qui a été apporté par la boîte, de la tech jusqu'au produit, au service, enfin, il y avait des gens, nous à la tech on souffrait, mais les gens qui géraient justement ces changements de règles et tout, qui géraient la configuration des centres de vaccination, bah, eux, ils n'avaient pas de soir, ils n'avaient pas de week-end. Hein. Et donc, je pense que même s'il y avait une rémunération en face, elle n'était pas vraiment intéressante.
Donc, tu es en train de dire que Olivier Véran, le ministère, n'est pas venu avec 4 millions de dollars. Ils vous ont dit, on fait un deal, c'est vous, notre plateforme, bon compte sur vous, vous êtes super.
Honnêtement, je ne sais pas du tout. Il y a peut-être de l'argent, mais j'en ai aucune idée. Vraiment, vraiment pas. Moi, dans ma tête, il y avait peut-être des licences pour chaque centre de vaccination. C'est peut-être le cas, ça l'est peut-être pas. Je ne sais vraiment pas. Je ne me suis jamais posé la question, quoi.
Et sur les... du coup, là, quand tu disais que 2%, c'était les, entre guillemets, 2% des requêtes, des prises de rendez-vous les plus coûteux, ça s'est répercuté comment, en fait, sur la plateforme, ou comment la montée en charge a pu être anticipée, ou est-ce que ce que vous avez eu comme flux, vous avez pu l'anticiper en vous disant on devrait avoir à peu près tant de personnes qui vont se connecter, comment vous avez pu gérer ça?
C'était très compliqué parce qu'en fait on était honnêtement à un tweet près, c'est-à-dire que il faut voir que on était dans un contrat avec l'État, et donc il y avait des communications entre l'État et les personnes chez nous. Le CEO Stan, il communiquait directement parfois avec Emmanuel Macron. Il y avait quand même une stratégie conjointe de c'est bien gentil d'ouvrir la vaccination, mais s'il y a rien de prêt en face, ça sert à rien. Mais là, en même temps, le politique, il a toujours la priorité. Donc s'il dit je vais le faire l'annonce après-demain, mais qu'en fait il a décidé que finalement non, il va le faire dans une heure, il va le faire dans une heure. C'est comme ça, c'est la vie. Donc nous, on était en attente d'un tweet ou d'un passage aux 20h ou un truc. Et on savait que déjà, notre trafic, il augmentait de façon très, très forte pour la vaccination, que ça provoquait beaucoup, beaucoup de hausse de CPU, base de données, tout ça. Et donc, on était en train de pédaler derrière pour être sûr que ça scale, de corriger des bugs, d'améliorer la perf, de mettre du caching et tout ça. Mais on avait toujours peur du passage aux 20h où là, ça fait x5 dans l'instant pendant une heure. Hein, et tu veux pas tomber, quoi. On veut que les gens ils prennent leur rendez-vous.
Et alors, justement, il y a le gouvernement, il y a vous, mais il y a eu d'autres plateformes aussi. On pense à Vitmados, Covid Tracker, etc.
Ouais.
Vous êtes tous un peu en lien, justement, vous avez appris à vous connaître.
Ouais, c'est assez marrant parce que déjà, pour résumer, pendant la vaccination, justement, le mois d'avril, le mois de mai, on a vu exploser le nombre de scrappers. En Allemagne et en France, on a beaucoup de sites qui ont commencé à nous scraper et à provoquer des petites augmentations de trafic. Alors, pas énorme, mais très vite, on a essayé de rentrer en contact avec ces gens pour au moins qu'ils mettent des heures particuliers. Donc, on est rentré en contact avec Guillaume Rosier. On lui a demandé de rajouter des headers particuliers. Je l'ai invité sur un Slack pour qu'on discute en interne de tout ça. Et ça s'est toujours bien fait en bonne entente. Mais on savait aussi que même en suivant nos règles, bah, ils nous provoquaient quand même une surcharge de travail. Fallait passer du temps avec eux, fallait configurer la plateforme, fallait avoir plus de ressources. Et puis, on savait aussi qu'à tout moment, s'ils décidaient de contourner nos règles, ils pouvaient contourner les règles et nous assommer. C'était assez marrant. Il y a Nicolas Martignol qui avait rejoint la boîte il y a pas longtemps et qui a pris à cœur de discuter avec Guillaume, de faire plein de dashboards Neuralink pour voir l'impact sur le nombre de requêtes, de voir combien ça nous amenait de patients qui prenaient rendez-vous au travers en référence avec comme référeur Vitmados, etc. Donc ça, on a fait tout ça. Ça nous a pris pas mal de temps. C'était intéressant. Et on avait aussi un problème sur le cache. C'est que nous, pour tenir la charge, à un moment donné, on a mis du cache. Et Vitmados, eux, comme ils scrapaient, ils passaient au travers du cache. Ah, oui. C'est pour ça que pendant quelques semaines, les gens disaient « Ah, sur Vitmados, il y a des données qui sont plus fraîches que Doctolib.
Ah. »
Et en fait, c'était quelque part vrai, quelque part une vue de l'esprit, parce qu'elles étaient plus fraîches, mais une fois que tu allais prendre ton rendez-vous, de toute façon, tu avais les données Doctolib. Donc, c'était un peu faux, hein. Et puis, on avait un tel trafic que de toute façon, des données fraîches, ça n'existe pas. Il faut voir que quand on ouvrait des créneaux sur un centre de vaccination à Berlin...
C'est des snapshots, en fait. Hein.
Dans l'instant, on a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vont se battre pour les mêmes 20 créneaux.
Punaise.
Donc, notre problème, il était là. C'est qu'on voyait à Berlin, les gens, ils n'arrivaient pas à prendre plus de 150 rendez-vous par minute, alors qu'on avait encore plein de dispo et ça mettait des heures à descendre. Et donc, on a analysé tout ça, on a cherché les root causes et on a abattu tous les murs un par un pour arriver à plus de 350 par minute. Mmh. Et que, en fait, les gens, ils puissent éventuellement, toi, tu cliques sur un créneau, on te dit, ah, il a déjà été pris. Hein. Mais on veut que tu puisses recliquer sur un autre très rapidement, avoir un feedback beaucoup plus rapide et boum, t'as tes deux rendez-vous et ça y est, t'es content. Mmh. Donc, ça, on a corrigé le produit, la plateforme. On a fait beaucoup de caching côté Cloudflare. C'était passionnant à faire.
C'est vrai que du coup, une telle occasion, opportunité, je ne sais pas comment appeler ça, mais ça vous a permis d'optimiser au maximum, en tout cas des connaissances actuelles des problématiques, mais d'optimiser au maximum votre système, alors qu'il n'y avait pas forcément lieu auparavant d'optimiser tous ces aspects-là, quoi.
C'est ça, parce que alors ça nous a permis d'optimiser des fonctionnalités qui sont un petit peu en marge, parce que les centres de vaccination, c'est beaucoup plus gros avec beaucoup plus d'utilisateurs qui combattent pour les mêmes créneaux. Mm-hmm. Et puis, on a aussi tapé des limites qu'on n'avait jamais tapées. Donc, tu vois, on est passé de 400 pods à 800. On a pu multiplier par 5 encore. C'était pas très grave, ça. Par contre, la base de données, elle a tapé les limites. Et on pouvait pas en mettre une deuxième, parce que notre architecture, elle est basée sur le fait que on essaie d'en avoir une seule. Hmm. Donc là, on a été plus créatifs, quoi.
Ouais, donc là, en fait, après le Covid, d'ici un an, lorsque tout ça sera derrière nous, vous avez la force de frappe pour aller taper à la porte d'autres pays, pour faire d'autres trucs. Enfin, voilà quoi. Vous avez scalé très très gros. Ouais. Là, ça va revenir à une taille où on l'espère tous comme avant. Mais vous avez montré que vous pourriez faire vachement plus. Ouais. Donc, pourquoi pas aller ouvrir d'autres pays, d'autres hôpitaux, d'autres. Justement, tiens, on n'en a peut-être pas parlé, mais est-ce que tu sais, toi, quelle est la couverture de Doctolib aujourd'hui dans les hôpitaux? Je parle de ça parce que l'année dernière, je suis allé à un hôpital parisien que je ne nommerai pas. Et je voulais prendre le deuxième rendez-vous et on m'a dit, et puis je leur ai dit oui, mais je suis passé par votre site et puis en fait, c'est super compliqué et ça marche pas. Et le Toubib m'a dit, écoutez, ça nous a coûté des millions d'euros. Ça ne fonctionne pas. Faites comme tout le monde. Allez sur Doctolib. Et donc, je me suis dit, tiens, mais en fait, eux, ils l'utilisent pas en interne vraiment, mais ils demandent à leurs clients d'y aller. C'est quoi le pourcentage aujourd'hui de Doctolib en France, dans les hôpitaux, les médecins?
Je connais pas les chiffres exacts. Ça varie beaucoup en fonction des catégories de médecins. Typiquement, on est beaucoup plus présent chez les médecins généralistes et les spécialistes que chez les personnes, par exemple, itinérantes. Parce que l'application, elle n'est pas encore complètement optimisée pour des kinés ou des infirmiers, infirmières itinérants. Donc ça, c'est dans les tuyaux au niveau de développement logiciel, mais en termes de part de marché, c'est pas encore ça. Sur les kinés qui sont, eux, en cabinet, on est pas mal parce que eux, ils ont des gros besoins d'optimisation de leur planning. Un kiné, c'est quelqu'un qui bosse comme un fou matin, midi et soir et qui doit gérer avec beaucoup de no-show et qui a un tarif qui est remboursé mais qui n'est pas très élevé. Donc, c'est des gens qui ont besoin beaucoup de Doctolib et qui en sont contents quand ils l'ont. Les hôpitaux, de mémoire, je dirais que on a quasiment tous les plus gros hôpitaux. De mémoire, c'est quelque chose comme 80% équipés Doctolib. Mais chez eux, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de... Il y a des connecteurs externes avec leur logiciel et tout ça. Je dirais qu'en moyenne, sur les médecins, moi, ce que j'avais retenu, mais c'était en octobre qu'on m'a dit ça, je dirais qu'on est à peu près à 50-60% des médecins, tout compris, qui utilisent Doctolib.
D'accord. Alors justement, là, on parlait du gouvernement qui tweetait en 24 heures, qui changeait tout ça. Est-ce que vous avez eu des problèmes un peu administratifs, l'administration française qui vous a demandé de remplir des formulaires rouges, verts, bleus? Est-ce qu'on vous a dit, oui, mais vos données, parce que c'est vrai que dernièrement, tous les mois, il y a Doctolib a vendu encore nos données, etc. Est-ce que vous avez eu la presse qui a écrit des trucs totalement faux, Francis Lalanne qui vous a tapé dessus? Enfin, est-ce que vous avez eu des choses un peu comme ça, des freins administratifs, politiques?
Oui, on en a eu. Alors, moi, je connais pas du tout la partie quotidienne, négociation sur le contrat, sur les évolutions, tout ça. C'est vraiment l'équipe métier qui fait un boulot incroyable. C'est eux qui étaient au courant et qui participaient aux prises de décision sur les périodes de vaccins, les machins, tout ça. En revanche, moi, je vois plutôt l'extérieur. Typiquement, on a une association qui nous a attaqué pour essayer qu'on enlève tous nos services d'Amazon devant le Conseil d'État. Donc, le Conseil d'État a tranché que non, il ne voulait pas suspendre le partenariat avec Doctolib et qu'on respectait toutes les règles imposées par le contrat et par le Conseil d'État et par la loi française.
Quand même, il y a carrément une assoce qui...
Donc, tu vois, tu as une assoce qui fait ça et puis tu te dis, mais OK, mais est-ce que vous savez que, OK, si la loi, ça change et qu'on doit aller en dehors d'AWS, on le fera? Mais on ne parle pas de un mois, hein. On parle de un an, deux ans. Je veux dire, donc ça, c'était le Conseil d'État nous a blanchi là-dessus et c'était un petit frisson quand même. Et puis maintenant on est regardé de près par tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait avec les données, et ci et ça. Et donc forcément, on a beau avoir un très très gros focus sur la sécurité des données, sur le chiffrement, sur tout ça, c'est du logiciel, donc parfois il y a des bugs et on essaie de les corriger le plus vite possible quand certains sont sortis. Par exemple, on a eu en juillet dernier, avant que je rejoigne, il y avait une histoire qui était parue dans la presse, comme quoi au niveau d'un connecteur avec un hôpital, il y avait des données qui avaient leaké. Là, par exemple, on est en train de faire le move pour avoir zéro cookie externe sur nos services patients. C'était déjà le cas sur les services pro, les services patients, c'était déjà quasiment le cas, mais on est en train de tout verrouiller à triple tour. Notre but, nous, c'est d'être inattaquable sur les données patients et praticiens, parce que depuis le début, c'est notre priorité numéro un. Les données de santé, elles sont protégées, elles sont chiffrées de bout en bout, elles sont stockées en France dans des data centers qui respectent la loi. Et donc, à chaque fois qu'on se fait attaquer, ça nous fait super mal en interne. On se dit, bon, c'est quoi l'équilibre entre on a fait quelque chose de mal et c'est juste que c'est amplifié 20 fois par la presse. Et à chaque fois, on a cet équilibre qui est, que Guillaume doit connaître chez Google aussi. Chez Google, parfois, il y a vraiment des bêtises qui sont faites, mais c'est des bêtises faites par des individus et c'est pas la volonté de la boîte. Hein. Chez nous, c'est encore plus flagrant. On ne vend pas les données des patients. Chaque fois, vous voyez quelqu'un qui dit « Ah, Doctolib a encore vendu les données des patients. » Mais c'est faux. On ne vend pas les données des patients. Les données, déjà médicales, on ne les a pas. Elles sont chiffrées, on ne peut rien faire. Je peux vous envoyer des suites aléatoires de chiffres. Ça sert à personne.
Il y a un leak de données patients. Puis là, tu balances un flux binaire.
Après,
ils ont calculé pi.
Après, on a des données d'analytics qui nous permettent d'où d'améliorer le système. Savoir que quelqu'un... on ne sait pas qui, et s'y prend à 200 fois pour prendre un rendez-vous, ça nous intéresse. Pas pour le vendre, pour améliorer le système. Savoir que les gens ils viennent d'Allemagne ou de France et qu'ils se connectent à tel ou tel centre, et que c'est ce centre-là sur lequel il faut qu'on investisse pour un changement de configuration, ça nous intéresse. Le reste, ce n'est pas notre business, et surtout, nous, on n'est pas là pour ça. On a un joli business à vendre des licences aux praticiens pour leur changer la vie. Et bon, voilà.
Là, par exemple, tu vois, justement, ouais, non, j'allais dire là justement avant qu'on fasse l'interview aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est le mercredi 30 juin, mais c'était genre hier mardi ou lundi par exemple, il y avait sur le site Les Échos, Doctolib a transmis des données à Facebook et à Outbrain en Allemagne.
Ouais,
avec
ça c'est
l'histoire des cookies, tu vois.
C'est ça, c'est sorti parce qu'on a des cookies externes et on a des équipes marketing qui peuvent ajouter des scripts pour optimiser telle ou telle mesure d'impact d'une campagne marketing. Et effectivement, là, c'était une vraie faute qu'on a corrigée dans la journée. On a désactivé tout ce système-là. On a contacté Facebook et l'autre boîte pour qu'ils effacent ces données. Et alors, ces données, vous allez voir ce que c'est. Ce n'est pas des données personnelles. Ce n'est pas des données médicales. C'est juste que quand vous allez sur une page qui contient un pixel de tracking de Facebook, eh bien, ils savent que quelqu'un a demandé un rendez-vous avec un dermato dans le 9e. Bon, voilà, c'est pas non plus incroyable,
après,
mais
c'est quand même des métadonnées et tu peux te dire, ah bah tiens, Facebook peut savoir que si tu prends un rendez-vous avec un cancérologue, peut-être que tu as un cancer.
C'est clairement ce qu'on veut surtout pas avoir, et donc
mais que vous avez
sur
corrigé.
Le site, vous verrez, ça a été corrigé. Et de la même façon, c'est pour ça que maintenant on est en train d'enlever tous les cookies externes parce qu'on a nous on n'a pas besoin de ces cookies pour vivre et on veut pas les avoir, hein. Donc on est en train de suivre le lead de des boîtes comme GitHub qui disent mais c'est pas ça notre business, donc on enlève tout. Yes. Mais ça fait partie des vrais leaks qui sont amplifiés quand même beaucoup parce qu'en pratique c'est pas si dingue que ça.
Puis le titre de ce genre d'article est quand même racoleur, c'est des données. Alors tu te dis, ça y est, ils savent tout sur mon dossier patient. Non, mais des données, c'est peut-être quelques petites données, mais qui ne sont pas ni critiques,
voilà.
ni.
Voilà, mais on est d'accord que c'est une erreur quand même de code et qu'on a tout fait maintenant pour résoudre ça, maintenant, pour le futur. On a même maintenant une société externe qui va monitorer ça de l'extérieur pour s'assurer que nous, on ne casse pas les choses. Donc, d'accord. On fait les choses bien, on essaie vraiment de faire les choses bien. Et l'auditoire, qui sont des devs ici, ils savent bien que ça nous arrive de faire des choses à l'insu de notre plein gré. Hein. et malgré tous les systèmes que tu peux mettre en place pour surveiller ton service, ça arrive.
Moi, ce qui m'étonne toujours un peu, je suis sûr qu'on a tous des potes comme ça, hein. Doctolib, le gouvernement, les données, ils savent tout. Et ça me fait marrer parfois lorsque je vois passer un tweet avec une photo, mon pote qui s'est fait vacciner, je me dis, punaise, voilà une information de santé publique vendue à une boîte qui s'appelle Twitter. Bref. Alors, on a posé des questions sur Internet. Enfin, on a demandé, est-ce que vous avez des questions à poser à David, énormément de questions sur les données. Donc, je pense que tu viens de répondre. Il y a une petite dernière question. En cas de rachat, il se passe quoi? Est-ce que les données vont devenir claires? Est-ce que la boîte qui aura racheté Doctolib pourra ouvrir votre base Postgre, avoir absolument toutes les données en clair et ouvrir une boîte de cancérologie?
déjà techniquement non, c'est chiffré avec des clés que Doctolib n'a pas, d'accord. Il y a tout un système entre tankers et des tiers parties, il y a tout un système qui fait que de toute façon nous-mêmes ou la boîte qui nous rachèterait ou un hacker qui arriverait à voler les données sur notre base de données ne pourrait pas les déchiffrer, donc non. Ensuite, on a un pacte d'actionnariat très très clair et très très sain, et donc notre but, c'est de faire une boîte qui transforme le healthcare en France, en Europe et dans le monde. Et c'est pas de vendre une boîte de rapace. Et en plus, on a un business model qui fonctionne bien. C'est de la licence à des gens qui payent tous les mois et qui en sont contents. On mesure. Pour nous, le taux de satisfaction de nos utilisateurs, vous croiserez toujours un médecin qui n'aime pas Doctolib, oui. Mais vous pouvez aussi en trouver des milliers qui adorent.
Sérieusement, enfin moi, je sais pas, par exemple mon médecin traitant, avant il y avait rien, après il y a eu, j'ai oublié le nom du truc, mais c'était pas super. En fait, c'est l'expérience utilisateur était pas si facile que ça pour bien voir tous les créneaux, pour bien sélectionner, etc. Mmh. Alors qu'on voit que sur Doctolib, vous avez passé énormément de temps sur l'expérience utilisateur pour simplifier. Trouver son médecin dans la liste, trouver les créneaux, etc. Enfin, c'est super agréable à utiliser. En quelques clics, on a rapidement son créneau. Et maintenant, quand je dois prendre un rendez-vous et si je vois qu'un docteur ou un spécialiste est pas sur Doctolib, je me dis, ah merde, il est pas sur Doctolib, il fait chier celui-là. Et puis encore pire, moi, je déteste téléphoner aussi. Je veux dire, il y a des gens qui sont comme ça, qui détestent téléphoner, et d'avoir un outil pratique, en plus, qui t'envoie des rappels, des SMS, des machins. Et en fait, c'est tellement agréable, ou même des fonctionnalités que les anciens systèmes, et je sais pas si les compétiteurs actuels, en tout cas, le font. Par exemple, tu sais, quand t'as un rendez-vous très loin, et que t'as un créneau qui s'est libéré, il va dire, ah, au fait, il y a un créneau plus tôt, est-ce que ça vous intéresserait de pouvoir prendre ce créneau-là à la place? Mais c'est génial, ça. Tu vois?
Ça, c'est la fonctionnalité qui plaît à tout le monde. C'est-à-dire qu'elle plaît aux patients, elle plaît aux praticiens.
Bah, aux praticiens aussi, ça remplit des trous, quoi.
Et le patient qui attend son rendez-vous d'ophtalmo dans 6 mois, c'est clair. Mais de toute façon, voilà, sur les fonctionnalités, vous trouverez toujours des médecins qui n'aiment pas ou qui trouvent ça trop cher ou qui ont eu des bugs.
Alors moi, j'ai aussi rigolo parce que Guillaume Laforge et Vincent Massol m'ont entraîné dans un semi-marathon pour le mois de septembre. Donc ce semi-marathon, il faut un certificat. Donc je suis allé voir mon toubib pas plus tard que la semaine dernière. Et lui, il a un iMac, il a une imprimante, etc., etc. Il a pas Doctolib. Et c'est rigolo, mais on en a parlé. Je dis, mais vous êtes high-tech, quel est le problème de Doctolib et la tech? Et il m'a dit un truc assez, en fait, étonnant. Il m'a dit, moi, j'ai envie d'avoir des clients du quartier. Et Doctolib, ça va me ramener des gens de très très loin que je ne connais pas, que je verrai peut-être qu'une fois. Et il me dit, alors en fait, j'étais dessus et j'ai laissé tomber parce que j'avais plus les mêmes clients, j'avais plus le même rapport. J'ai trouvé ça marrant en me disant, attends, mais je suis sûr que Doctolib, ils peuvent faire une feature. Où est-ce que t'habites?
Géolocalisé.
Lui, il veut pas que t'y ailles parce que t'es trop loin. Bref.
Non, mais les choses, ils peuvent choisir leur pourcentage de nouveaux clients pour diversifier un peu leur patientèle. Mais t'as, par exemple, nous, on a des. Donc, quand tu fais l'onboarding, tu rencontres des médecins qui te racontent pourquoi eux, ils aiment Doctolib. Et c'est impressionnant. Nous, on avait un gynécologue qui nous disait que lui, ça avait changé sa pratique en particulier. Il disait mes patientes, la plupart, j'ai vraiment besoin de les voir une fois par an. Le reste du temps, je peux tout faire à distance. Et en particulier, quelqu'un qui habite en grande banlieue et qui venait me voir avant pour faire prescrire une pilule ou autre chose, là, on fait tout à distance. Et peut-être que ces patients, je ne l'aurais jamais eu parce que moi, je suis gynécologue dans le 16e. Il disait, mais moi, je suis ravi de voir des gens qui viennent de loin, qui ne sont pas de mon quartier, parce que mon quartier, c'est tous les mêmes. Et donc, voilà, il y aura tous les points de vue différents, mais c'était ouais. passionnant d'écouter ce spécialiste. Lui disait, mais j'ai changé ma façon d'exercer la médecine.
Eh, c'est pas mal, là. Sur votre onboarding, vous voyez quand même des toubibs, quoi. Vous ouais. voyez votre client final.
Ouais, ouais.
C'est quand même pas mal.
Et là, tu peux aussi participer, tu peux aussi aller dans les call centers, participer à des appels. Tu peux, on a après l'onboarding, on a des médecins qui, de toute façon, viennent faire des interventions régulières pour expliquer comment ils utilisent ou ce qu'ils voudraient voir de nouveau ou depuis quand ils utilisent ou comment ils ont changé leur pratique. C'est assez chouette. Hein.
Mais alors, vous êtes seul au monde, alors il n'y a pas de... Et il n'y a pas de compétition Doctolib, alors vous êtes
vous l'avez vu
Google Calendar, je vois pas.
Non, mais alors, sur la prise de rendez-vous en ligne, on est clairement numéro un en France, mais vous en avez vu d'autres sur Vitmados, hein. On a des concurrents. Sur les PMS, donc le logiciel de gestion de patientèle, on a plein de concurrents historiques qui font des logiciels, on va le dire très clairement, qui la plupart sont vieux, atroces, client-serveur, inutilisables, lents, qui n'évoluent plus parce qu'ils ont bloqué le marché. Donc nous, on arrive et on est le petit challenger. En Allemagne, eh ben, on commence à être connu, mais on est tout petit encore. Et en Italie, n'en parlons pas, c'est depuis janvier. Donc il y a une énorme marge de progression pour nous. Après, oui, en France, on a une jolie situation. Il y a 5 ans, les gens ne connaissaient pas tous Doctolib. Maintenant, tout le monde connaît.
Tout le monde connaît.
C'est à nous d'apporter encore des fonctionnalités qui changent la vie à tout le monde. Tu vois, là, vous avez tous des ordonnances que vous imprimez, que vous amenez à la pharmacie, qui sont scannées. Ils impriment sur tous les côtés, même sur la tranche.
Ils scannent et tout. Mais c'est fou, quoi. C'est fou.
Ça, on veut le changer, tu vois. On veut le changer. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Ah oui, donc Doctolib soit aussi chez les pharmaciens.
Et bah, d'une façon ou d'une autre, oui, que ces parties-là, qu'on puisse faire des ordonnances qui sont signées, validables et qui sont. Qui puisse électroniquement remplacer cette imprimante qui t'imprime tout dessus. Voilà. Après, on fait pas ça pour la techno, on fait ça pour faciliter l'accès aux soins et pour faciliter un truc qui est très compliqué pour, je sais pas si vous avez eu comme ça à aller voir un médecin généraliste qui vous envoie chez un spécialiste, qui vous envoie chez un autre, et chacun il s'envoie des notes par courrier ou par email ou par machin. Ouais. Là, on a lancé un système de messagerie pour les praticiens, pour qu'ils puissent discuter de façon end-to-end, chiffrée de bout en bout, de cas patients, et pour pouvoir justement coordonner ce genre de parcours patient. Et ça va changer la vie à tout le monde. Hein.
C'est vrai que nous, on est peut-être supra-geek, donc on a peut-être tendance à tout automatiser, mais c'est vrai que lorsqu'on voit, comme tu dis, tu vois, le généraliste, il écrit une lettre que tu n'arrives même pas à lire, tu la donnes à un autre gus qui lui arrive à lire, hein, et puis tu repars avec cette petite ordonnance, il le scanne, après il te le redonne, enfin, c'est un peu fou. Et le pire, c'est que j'ai eu le cas là, vitamine D. Vitamine D, il faut en prendre pendant 3 mois, une fois par mois, mais à part qu'on te donne que un flacon. Donc chaque mois, il faut que tu retrouves ton petit bout de papier, il le rescanne, il le réimprime. Et c'est vrai qu'en tant qu'informaticien, tu te dis, mais c'est complètement fou comme truc.
Ouais, c'est fou. Ouais. Et en fait, Doctolib, ça s'est créé comme ça. Stan et les autres qui ont créé la boîte se sont dit, on va changer la médecine, mais pour savoir ce qu'on va changer, on va aller voir les médecins. Donc ils sont allés voir les médecins, ils leur ont dit, bon, il faut qu'on fasse quoi pour que ça vous change la vie. Et ça, c'est assez incroyable, et ça a commencé comme ça. Hein. Et moi, j'ai vraiment rejoint la boîte parce que voilà, je croyais au produit. Typiquement, en Allemagne, on a plus du mal à recruter parce que les gens ne connaissent pas encore Doctolib. Donc, et même en France, les gens disent, ouais, c'est un petit site de calendrier partagé. Et puis pendant la vaccination, toi, t'es là en train de mettre des serveurs et des serveurs et de changer l'archi et d'optimiser aux petits oignons tout et d'avoir une centaine de développeurs qui sont en marche, quoi. Et il y a une sorte de déconnexion entre ce qu'on voit nous en termes de simplicité et le service rendu, quoi.
Mais alors, votre avenir, donc, c'est plus de pays, plus d'hôpitaux, plus de médecins, plus de fonctionnalités, pourquoi pas les pharmacies, etc., etc. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Est-ce que vous avez une roadmap bien établie? Ou un peu comme le Covid qui se pointe et qui chamboule votre roadmap, est-ce que votre roadmap elle est super claire à 2 ans, 5 ans, 10 ans? Ou est-ce que on verra?
Notre roadmap elle est claire, elle n'est pas publique, elle est claire. Oui, il y a des choses qui sont publiques, des choses qui ne le sont pas, mais globalement, on veut continuer à révolutionner l'informatique dans les cabinets médicaux. Il y a plein de logiciels que les médecins utilisent que nous, grand public, on ne connaît pas. Et c'est pour ça qu'on a lancé notre Doctolib Docteur. Mais il y a plein de... Là, on parlait tout au début de machine learning pour catégoriser les notes. Parmi les bêta-testeurs, 80% des gens l'utilisent et en sont ravis. Et ça les rend plus productifs. Et ils ont des notes de meilleure qualité qui s'affichent de façon plus intéressante pour eux, pour les aider ensuite à diagnostiquer. Et ces fonctionnalités-là, elles n'existaient pas avant parce que les logiciels, ils sont là, ils sont vendus et puis ils n'évoluent plus. Donc, on a plein de choses à améliorer. Ouais.
Alors, quand on parle de la santé en France, où on voit bien le ministère, le gouvernement, tout ça, c'est... On se souvient du fiasco qui a maintenant 10 ou 15 ans, là, lorsque le gouvernement avait voulu faire le passeport médical, je ne sais plus comment ça s'appelait, passeport médical sécurisé, non, c'est le PMS, c'est ça, enfin, je ne sais plus. Est-ce que là, on est en train de dire Amélie IFR, c'est mort, ils ont même pas été fichus de faire un calendrier à la Doctolib, le passeport médical, enfin voilà, c'était un échec de je sais pas combien de millions à l'époque. Mmh. Est-ce que on est en train de se dire le futur de la santé en France, c'est une société privée. Voilà, le gouvernement, le ministère a tout échoué partout. L'avenir, c'est Doctolib et consorts. Mais Amélie FR, c'est terminé. Le gouvernement, c'est terminé. Tout le monde se retire de la course technologique et de la santé.
Je pense pas, en fait. Le DMP, c'est le dossier médical. Est-ce qu'il est partagé ou personnalisé? On ne sait pas avec le P.
Voilà.
Et c'est un cas très intéressant pour nous, parce qu'en gros, on veut être acteur de ça. Et on veut faire bouger les lignes pour que la loi permette à plusieurs boîtes d'être acteur de ça. Mais de toute façon, comme c'est un dossier médical, ça va forcément... concerner la personne qui a son dossier, mais aussi ses praticiens et les hôpitaux. Et donc, il y a plein d'acteurs privés ou publics qui vont interagir. Donc, on veut être un acteur, ça c'est sûr. On ne veut pas être celui qui va stocker toutes ces données-là. Et si on en stocke, on veut que ce soit dans le cadre de ce qui viendra comme nouveau projet. Pour vous donner des exemples, en Allemagne, tout ce qui est messagerie entre praticiens, on part sur des modèles complètement distribués, chiffrés de bout en bout, peer-to-peer, avec un standard. Et nous, on veut respecter ce standard et on veut aussi l'amener à évoluer pour pouvoir faire de la consultation vidéo avec ce standard, pour pouvoir faire des échanges de documents avec ce standard. Et je pense que des standards comme ça, l'État, Amélie, ils ont leur place pour essayer de les imposer. Et pareil aussi sur les protocoles de communication, il y a des choses comme FHIR qui sont des façons d'échanger des données médicales entre les différents acteurs. Nous, on a envie que ce soit plus répandu et on a envie aussi de faire ça à plus. Et on ne parle pas d'open data, mais on parle au moins de fait que les données soient accessibles à des acteurs qui ont le droit d'y accéder. Alors qu'actuellement, l'ordonnance, je t'écris avec mon stylo plume, une ordonnance que tu vas envoyer chez la pharmacie qui va la photocopier. C'est pas de l'échange d'informations quoi. Ça a des points positifs et puis ça a aussi plein de points négatifs à l'échelle d'un pays.
L'avantage c'est que c'est crypté et il y a que le médecin et la pharmacienne qui arrivent à lire.
Ah oui, c'est déjà
chiffré. Et ça finit dans tes poubelles et quelqu'un peut les ouvrir toutes les semaines pour savoir ce que tu prends comme médicament.
Oui, mais c'est crypté, on n'arrive pas à lire tout ça.
Mais pire tout pire, pourquoi pas plutôt meilleur tout meilleur. Ça, c'est fait. Bon, c'est pas mal en tout cas comme aperçu de.
Bah merci David, parce que moi je suis un utilisateur lambda de
Ah
Doctolib.
ouais,
J'ai 4-5 potes qui y bossent, mais je leur avais jamais posé toutes ces questions-là. Donc merci d'avoir ouvert un peu le capot de Doctolib. Et on
pareil.
dira à Francis Lalanne d'écouter ce podcast. Voilà.
En plus, tu diras, on n'a pas trop parlé techno finalement.
Allez Francis,
Un
écoute
peu
quand
quand
même.
même. Et David, toi qui aimes bien les jeux de société, est-ce que tu as un jeu en particulier à recommander? Mais tu n'as pas le droit de dire pandémie.
J'ai pas le droit de dire pandémie. Alors 50 missions, alors 50 missions.
50 missions, d'accord.
C'est très chouette avec les enfants, 50 missions.
D'accord, très bien. En tout
Eh
cas,
ben
c'était une belle
merci,
mission de service public.
merci David. Ouais, c'est.
Bon courage
Il
à
y a
toutes
beaucoup
les
de
équipes.
personnes qui parlent de sens de notre métier, etc. Là, je pense que tu es en plein dedans.
Ouais, c'est
Ouais.
clair. Ça, c'est ce qui m'a attiré. C'est le numéro un des trucs qui m'ont attiré et qui me rendent heureux tous les jours au boulot. Et on a eu pendant cette vaccination des périodes de, ouais, comme tu disais, d'heures sup et on a eu du mal à dormir, mais on savait qu'à la clé, c'était pour un service qui avait du sens, quoi.
Vaccinez-vous. Chers auditeurs,
Il
c'est
y a plein de
important.
créneaux, c'est facile.
Plein de créneaux. Et puis même, je crois qu'ils en parlaient là d'ailleurs sur France Info ce matin, il y avait, je crois que c'est Olivier Véran qui a dit, mais même si vous pouvez aller faire des, vous pouvez aller vous faire vacciner même sans prendre de rendez-vous. Et c'est vrai que le fait est, bon, moi j'ai pris mes rendez-vous sur Doctolib évidemment, mais le centre de vaccination qui est pas très loin de chez moi. Quand j'y allais, il y avait toujours des gens qui venaient aussi pour prendre rendez-vous sur place et qui on leur répondait, bah si vous voulez, vous pouvez passer dans 10 minutes. Ah bah
D'accord,
ok, très bien.
d'accord.
Ah ouais, donc, il y a plein de places là. Puis avec les vacances scolaires, avec les vacances scolaires aussi, il y a les gens qui ont peur que ah, même si je le prends maintenant et que le deuxième, ça va tomber pas. Mais en fait, comme on peut prendre le rendez-vous un peu avant ou un peu après, enfin, faut vraiment, c'est une très mauvaise excuse que de ne pas prendre un rendez-vous pour se faire vacciner à cause de ça.
On se
Donc,
revoit en octobre,
allez-y.
hein, parce que nous, on sait que le mois de septembre, il va être chaud.
Ouais.
On a toujours un pic énorme en septembre. Les gens, ils sortent de vacances et ils prennent des rendez-vous. Mais là, on sait qu'il y a beaucoup d'enfants, effectivement, qui vont se faire vacciner
Ouais.
seulement en septembre à cause de ça.
À
C'est
cause des
dommage,
vacances,
mais
oui, à cause des vacances, ouais.
ouais,
ça va arriver.
Ça marche. Bon, ben merci encore pour le
Merci
temps.
David, c'était
Merci beaucoup à
passionnant.
vous. Merci, merci.
À très bientôt.
Au revoir tout le monde.
Ciao, ciao.
Salut.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.